Voyager à travers le temps et aborder l'histoire de la Côte d'Ivoire, les rapports entre les peuples, les espaces culturels et traditionnels, les relations du pays avec les peuples d'ici et d'ailleurs. Histoire d'ici, la Côte d'Ivoire, racontée par ceux qui la vivent. Historique, contes, légendes, des origines à nos jours. Présentation, Jules Coffier-Bois. Diffusion, tous les lundis à 15h10, rediffusée les jeudis à 9h10. Histoire d'ici, voyage au cœur de la Côte d'Ivoire profonde. Histoire d'ici.
Auditeurs, auditrices de la fréquence de la paix, bienvenue sur votre chaîne préférée. Mon invité ce jour se nomme Ayemou Ferdinand. Monsieur Ayemou Ferdinand, bonjour.
Bonjour, monsieur Jules Coffier-Bois.
Docteur, nous sommes ensemble pour quelques minutes à la découverte de Bonoa, dans des documents écrits par les colons. À Bonoa, ça veut dire à l'oreille de la forêt. Je sais également que Bonoa est habité par des Abourés. Mais ce que je ne sais pas, quelle est l'histoire de Bonoa? Les populations de Bonoa, les Abourés de Bonoa, sont venus d'où pour être où ils sont aujourd'hui? Nous sommes partis donc de la capitale économique. Après la commune de Port-Boué, nous atteignons Grand Bassam. Et puis après Grand Bassam, il y a ces deux villages qui sont juste à gauche, qu'on appelle Vitré 1, Vitré 2. On va continuer et puis on va monter sur le pont. Avant d'arriver sur le pont, il y a deux quartiers habités par des Abourés. Voilà, je ne sais pas si il y a Koumassi, il y a Benyini. Bon, vous allez rectifier. Et puis nous arrivons à Yao. Yao, voilà, Bonoa. Nous sommes à Bonoa et nous avons soif. Nous voulons savoir quelque chose sur Bonoa. Les populations de Bonoa sont venues d'où? Monsieur Ayemou Ferdinand, parlez-nous de Bonoa.
Merci bien, monsieur Jules Coffier-Bois, pour cette opportunité que vous nous donnez. C'est un grand honneur pour nous d'être en présence d'une icône de la radio ivoirienne. En son temps, vous faisiez l'émission « Connais-tu mon beau pays ?» qui a bercé un peu les Ivoiriens, qui nous a permis de connaître leur histoire et leur patrimoine. Et concernant l'histoire de Bonoa, il faut dire que cette histoire remonte assez longtemps dans le temps. Et je vais revenir sur l'élément que vous avez évoqué par rapport au village de Mossou. Avant de prendre le pont, on voit que la zone de Mossou est divisée en deux, des deux côtés du pont. En fait, le village est scindé en deux quartiers, le quartier Benyeri et le quartier Koumassi, qui montre la dualité de la provenance du peuple Abouré. Donc lorsque nous arrivons à Bonoa, il faut dire que concernant votre première appréhension sur le nom de Bonoa, cette appréhension est exacte, parce que Bonoa veut dire « à l'oreille de la forêt ». Et l'histoire de Bonoa remonte de plus au XVIIe siècle, parce que nous allons rentrer dans ce qu'on appelle l'histoire de leurs ancêtres. Et beaucoup de personnes ne savent pas que le peuple Abouré en lui-même est composé de deux grands noyaux. Il y a ceux qu'on appelait les Abous et il y a ceux qu'on appelait les Essiep qui vont donner le groupe R de Mossou, puisque le groupe R de Mossou aussi habite aussi à Yao. Et le groupe de Bonoa qui porte le nom ancien Abou vient de la zone sud de la capitale ghanéenne, la deuxième ville ghanéenne qui est Koumassi. Leur localité se trouvait entre deux zones, le village de Douampessé et le village de Fomena, en terre ghanéenne. Précisément, les ancêtres de Bonoa qui font partie du clan Asona sont partis de la localité de Kokobianté. Et c'est de là qu'ils vont créer leur petite localité qui va se trouver tout au sud de Fomena, la capitale du royaume Adansé. Donc là, nous nous trouvons au XVIIe siècle. Mais si nous remontons le temps, on place l'origine du peuple Abouré dans ce qu'on appelait le déplacement des proto-Akans, c'est-à-dire les ancêtres des Akans, qui quittent la zone de la vallée du Nil E de l'Omo, qui se trouve dans la zone de l'Éthiopie, du Soudan, du Kenya actuel. Et c'est de cette zone qui progresse pour atteindre le nord de la zone ghanéenne actuelle. Et c'est de cette zone qu'ils vont ensuite descendre vers le confluent du fleuve Pra et Ofin. Et leur déplacement est dû à l'éclatement de la première localité qui sera considérée comme le noyau de la civilisation à Caen, c'est-à-dire la localité du Bono. Donc, lorsque cette localité éclate au XIIIe siècle, les différents groupes descendent un peu plus au sud. Et le clan dont est originaire la famille royale de Bono, c'est-à-dire le clan Asona, descend et fonde Kokobianté. Et c'est de cette zone que, à la suite de la volonté du roi à danser, de fédérer les différents chefferies de la zone, que ceux de Bonois, c'est-à-dire les ancêtres des aboureux de Bonois, décident de migrer, puisqu'ils ne voulaient pas se soumettre au dictat du nouveau souverain qui se nommait Eroade Bansa. Donc ils quittent la zone aux alentours de 1625. Donc ils vont progresser, et dans leur progression, ils vont traverser le fleuve Tanoué. Tanoué, en passant par la zone de la Win, qui était le pays d'origine des Agni. Et dans leur descente, ils vont atteindre la zone habitée par les Agwa, le peuple Agwa, qui était voisin au peuple Eotilé. Donc ils y sèment dans la zone, ils vont s'asseoir dans la zone, créer des localités dans la zone. Donc certaines localités sont discutées entre les Aboureux et les Agwa, parce que les deux groupes revendiquent la paternité de la création de certaines villes comme Ebosso, qui est devenu Abwasso, Aliekro, et Sima et autres localités. Et il reste dans cette zone jusqu'au XVIIIe siècle. XVIIIe siècle, à partir de 1715, on a la vague des Agni qui arrive dans cette zone. Donc la présence, l'incursion des Agni, avec les guerres qu'ils imposent pour pouvoir soumettre les populations, font que les différents peuples qui habitaient dans la zone, qui sont les Abourés, les futurs Abourés et les Agwa, certains décident de migrer et s'installer dans la zone d'Adiaké. Donc, dans la zone d'Adiaké, on aura le regroupement de tous les clans Abourés. Parce que, entre-temps, ceux de Mossou, les futurs Abourés de Mossou, aussi étaient dans la zone Enoyan, précisément vers la localité de Frambo. Donc, la même incursion à Agni va faire qu'ils vont quitter la zone pour venir dans la zone d'Adiaké, retrouver leurs frères qui seront les futurs fondateurs de Bonois dans cette zone. Et ils vont demeurer quelques temps dans cette zone. Puis on a encore l'incursion des guerriers Agni qui arrivent dans la zone. Et l'ensemble va se disloquer. Les futurs fondateurs de Bonois vont aller s'installer à Ntafou, à quelques 3 km de Adiaké. Et les futurs fondateurs de Mossou vont se scinder en deux. Il y a un groupe qui va fonder Bondoukou, mais pas la ville de Bondoukou qu'on connaît actuellement, mais une localité qui se nommait Bondoukou qui était dans la zone d'Adiaké. Et un autre groupe qui va fonder la localité d'Alouvré, dans la même zone, à 3 km de la localité de Bondoukou. Donc ceux de Bonois, comme on revient sur ceux de Bonois sont installés à Ntafou sous la direction du roi Ibirikissi. Parce que les premiers souverains qui ont conduit le groupe sont le roi Akaoba et puis le roi Adjobi, dans la zone d'Abassou. Maintenant, lorsqu'on arrive à Ntafou, c'est le roi Ibirikissi qui dirigeait l'ensemble. Mais il se trouve que à ce niveau, encore, ils vont se heurter aux Agni, puisque les Agni vont encore mener une incursion dans la zone. Donc, il y aura un conflit ouvert. Et ce conflit, selon les traditions, Agni, ils estiment qu'ils ont eu à décapiter le roi Abouré. Donc, ils sont partis avec sa tête comme trophée. Les traditions Abouré disent que, contrairement à ce qu'avancent les Agni, le roi s'est plutôt suicidé. Donc, il s'est suscité avec certains de ses notables. Et le peuple a dû se disperser. Et à ce niveau, on verra qu'il y aura un tournant majeur dans l'histoire du peuple de Bonois, parce que la première famille qui était chargée normalement de régner sur le trône sera dépossédée de ce pouvoir pour la seconde famille. Cela parce que, On estime que le roi n'a pas fait preuve de bravoure pour pouvoir sauver son peuple du péril. Et l'un de ses fils, Kissi Ebiele, va remobiliser les troupes à Bouré, parce que comme lui-même c'est un guerrier, c'est un safran, comme on le dit, il va remobiliser les peuples à Bouré pour aller délivrer certaines femmes qui ont été faites captives par les Agnis. Et à sa famille, on lui rendra des honneurs. Donc, ce qui fait que lorsque la famille, c'est la famille Koro, lorsque cette famille, il arrive que cette famille commet un impair, les éléments de cette famille ne sont pas jugés en reconnaissance à l'acte posé par leur fils. Donc, lorsque le roi meurt, c'est-à-dire le roi Ebiele Kissi décède, c'est le roi Aoré, premier du nom. Parce qu'on a eu sur le dernier Aoré qui est décédé tout dernièrement, mais le roi Aoré, premier du nom, qui va diriger maintenant l'ensemble dans la zone de Samo. Donc, il prend le groupe Ivivlé, c'est de la famille Ivivlé, et puis la famille Onanvin, il se dirige, s'installe à Samo. Entre-temps, les autres clans se sont éparpillés dans la zone. Certains sont allés fonder la localité de Nyampon, certains ont fondé la localité d'Adosso, d'autres ont fondé la localité de Tchantchévé. Quand on parle Tchantchévé, c'est la famille Tchantchévé. Et d'autres encore sont allés fonder en diverses localités comme l'Arabia, qu'on appelle Nchouanouin, parce qu'il y avait la rareté de l'eau dans cette localité. Donc, le roi Aoré, lorsqu'il arrive dans la zone de Samo, entre 1725 et 1730, il arrive dans la zone de Samo, il décide de prendre les nouvelles des différents clans qui sont éparpillés. Donc, il envoie des éclaireurs pour rechercher les différentes familles à Bouré. Donc, il réussit à retrouver les traces de ces familles. Et entre-temps, il y avait un chasseur du nom de Onlon Kebi qui, dans ses prospections, tombe sur une zone giboyeuse qui sera plus tard la zone de Bounoua. Et le roi Aoré a constaté que la zone de Samo était une zone à découvert, qui était à la portée de l'ennemi. Donc, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait trouver une nouvelle zone d'habitation. Donc, il avait chargé certains de ses envoyés pour aller chercher des nouvelles zones. Mais entre-temps, comme le chasseur Onlon Kebi avait déjà vu une zone qui était propice, parce que c'était une zone qui était mitoyante entre la zone savanicole et puis la zone forestière. Et la zone, comme la zone était un peu plus élevée, donc de cette zone, on pouvait déjà voir l'ennemi venir. Donc il a proposé sa zone qui était entre-temps sa zone de chasse au roi, pour dire que dans mes prospections, j'ai trouvé une zone qui serait très intéressante pour notre peuple. Maintenant, pour que l'ensemble se déplace pour venir à Bounoua, le roi Aoré a donné l'ordre à ses différents envoyés d'aller notifier aux différentes familles de venir le retrouver à Samo pour qu'ensemble, ils puissent partir à Bounoua. Et avant bien même que les autres familles arrivent, lui et sa suite se déplace. Et les autres familles viendront au fur et à mesure les rejoindre dans la zone de Bounoua. Et ensemble, ils vont fonder la localité qui prendra le nom de Bounoua, qui veut dire à l'orée de la forêt. Donc voilà l'historique de la progression et de l'histoire des Abourés de Bounoua.
Je voudrais vous remercier. Alors, on ne va pas partir tout de suite au Ghana, parce que au Ghana, ça n'a pas été facile pour les ancêtres Aboré. Ils sont arrivés, ce qu'ils ont trouvé d'abord, je veux parler des Aguas. Ils ont trouvé les Aguas, ils n'ont pas pu s'entendre avec les Aguas. Et s'ils se sont entendus avec les Aguas, qu'est-ce qui s'est passé? Et puis, on n'a pas parlé des Eutilés. Est-ce qu'ils ont trouvé sur place les Eutilés ou bien les Eutilés n'étaient pas encore arrivés là? Bon, et puis les Agnis. Ils sont arrivés du Ghana, on sait pour quelles raisons. Ils aussi, ils ne vont pas les laisser tranquilles. Il y a eu des échauffourées entre les Agnis et les Abourés. Alors, vous allez partir de là. Les Aguas d'abord, qu'est-ce qui a posé les Abourés, les anciens Abourés et les Aguas? Et puis, qu'est-ce qui a fait que les Agnis aussi n'ont pas pu s'entendre avec les Abourés?
En fait, lorsque les Abourés arrivent dans la zone habitée par les Aguas, à Boisseau, dans la zone de Boisseau, il n'y a pas eu de conflit ouvert entre deux groupes. Parce que le peuple Agua a accueilli pacifiquement les Abourés. Donc, il a permis aux Aborés de s'installer dans la zone, de fonder des localités dans la zone. Donc, les deux peuples habitaient en tant que frères dans la même zone. Puisque même lorsqu'on prend les récits de voyages européens du XVIIe siècle, tellement les deux peuples s'attendaient qu'on mettait les deux groupes sous une même appellation. On les appelait les comparses. Les comparses. Donc, pour les Européens, tous les peuples qui habitaient au nord du peuple éotilé, c'était les comparses. Alors qu'à l'intérieur de ces comparses, il y avait les Aguas et puis il y avait les Aborés à l'intérieur, les futurs Aborés à l'intérieur. Donc, on voit déjà qu'entre ces deux peuples, il n'y a pas eu de conflit ouvert. Et lorsque les Aborés arrivent, ils trouvent les Éotilés qui étaient déjà installés dans la zone. Parce que les deux peuples qu'on peut dire qui sont les premiers à habiter la zone, c'était les Éotilés et puis les Aguas. Les Aguas habitaient la terre ferme, donc au nord de la lagune Abi. Et les Éotilés vivaient dans les îles qui formaient tous les îlots de la lagune Abi appartenaient aux Éotilés. Donc, ils habitaient les îles. Et tenez-vous bien, au sud-est de leur pays, ils vont laisser cette zone qui était une zone terrestre. Et au sud-est de leur zone qui était une zone forestière, ils vont céder cette zone au deuxième groupe des Aborés, les Ayers, qui vont habiter dans la zone de Frambo et la zone de Eslo. Et un autre groupe, le clan Moho des Aborés, va habiter le littoral. Donc, on voit que dans cette configuration, les Éotilés et les Aguas sont les premiers à être présents dans la zone. Et les Aborés viennent les trouver. Donc, ensemble, ils vont vivre en de bons termes. Mais il y a eu un élément majeur qui va se déclencher en 1670 pour le clan Aboré Moho qui habitait le littoral. En fait, ce clan devenu riche avec le commerce qu'ils exerçaient avec les Européens et avec l'appui des Elangama qui vont former un groupe des Hébriers Nokwa, c'est-à-dire les Hébriers de Bergerville. Avec leur appui, ils vont vouloir s'imposer aux Éotilés. Et ce qui va sauver en fait le peuple Éotilé, parce que le peuple Éotilé n'est pas un peuple guerrier en soi, ce qui va les sauver, c'est la venue des Essouma en 1670. Ces Essouma étaient des aguerris de la guerre. Donc, ils viennent et ensemble, ils concluent un accord avec les Éotilés et ils chassent les Aborés du clan Moho du littoral. Et ceux-ci vont progresser pour aller vers Bassam. Donc, en récompense, les Éotilés leur donnent le littoral occupé par le clan Moho des Aborés. Donc, ils vont occuper cette zone et puis l'île d'Asoko, en l'honneur de leur ancêtre qui s'appelait Asokore, qui vient du clan Kona Asoko, qui est à peu près le même clan que les Azanoulé des Nzma. Et pendant cette période, on voit que la seule guerre qui a lieu, c'est en 1670. Donc, c'est le seul élément de mésentente entre les Aborés et les Éotilés. Mais le reste des Aborés qui vivent dans la zone auront de bons rapports avec les Éotilés. Et lorsque les Agnis arrivent, les Agnis, ce sont des peuples guerriers. Alors que les Aborés, à la base aussi, sont des peuples guerriers. Parce que le noyau qui va fonder le peuple Aboré appartenait au même noyau que le royaume Akiem Abouakwa. Or, les Akiem Abouakwa, le nom Abouakwa veut dire les guerriers Abou. Donc, ce peuple Aboré même, à la base, est guerrier. Donc, on voit que dans l'espace, lorsque deux peuples qui ont un même trait caractéristique, où il y aura toujours des frictions parce que personne ne voudra laisser l'autre le dominer. Mais les Aborés, ce qui a fait un peu la faiblesse des Aborés, c'est qu'ils n'étaient pas regroupés. Ils étaient dispersés. Donc, ils ne pouvaient pas faire face à la menace Agni. Donc, par mesure de prudence, ils vont se replier dans la zone d'Adjaké. Et tenez-vous bien, lorsqu'ils arrivent dans la zone d'Adjaké, ils trouvent un autre clan Éotilé qui était déjà préinstallé dans la zone, qu'on appelait le clan, on va prendre le nom de Mamlé, Vatouan, dans le pays Aboré. Mais le clan appartient au clan Boyné des Éotilés, qui ont pour symbole le chien et le feu, ce qui marque leur présence dans la zone. Et c'est ce clan qui va les accueillir et faire jurer à l'ensemble des populations qui arrivent de renoncer à la guerre. Parce que le clan qui est installé avait pour activité principale la pêche. C'est pas un clan qui était à la base guerrier. Donc comme ils accueillent cet ensemble de populations qui viennent, il ne faudrait pas que ce peuple leur fasse la guerre ou essaie de les soumettre. Donc leur chef va demander à ce que chaque clan Aboré jure sur un rocher avec son sabre de guerre pour dire qu'à partir de cet instant, il renonce à faire la guerre. C'est sur ces thèmes que ce clan va les accueillir dans la zone. Ils vont y vivre, mais les Agnis, toujours en quête de territoire, vont progresser. Et qu'est-ce qui fait qu'ils touchent la zone d'Adjaké? C'est parce qu'ils voulaient soumettre les Éotirés qui sont sur les îles. Et la zone la plus proche qui pouvait leur permettre d'accéder aux îles Éotirés, c'était de contourner la lagune Abi par l'ouest, progresser jusqu'au niveau du littoral et de là avoir un accès facile sur les îles. Or, en prenant la lagune Abi par l'ouest, ils tombent dans la zone d'Adjaké qui était occupée par les différents clans Abourés. Donc, ils doivent encore combattre les Abourés. Et ce peuple décide encore de se retirer par les Antafo. Donc, voilà les éléments conflictuels qui ont existé entre les Agnis et les Abourés. Mais, bizarrement, les Agnis estiment que les Abourés, lorsqu'il y avait un conflit contre les Abourés ne perdaient pas d'hommes sur le champ des opérations. Donc, ils disent que ce peuple est un peuple de sorciers. Donc, ils vont les nommer les Baïfoué, les sorciers. Puisque lorsqu'il y a toujours des échanges conflictuels entre eux, ils ne voient pas des corps des guerriers Abourés. Donc, ils se disent, mais comment un peuple avec qui on se bat tout le temps, on ne voit pas le corps de leurs hommes? Mais cela, c'est que ce sont des sorciers, en fait.
Des véritables sorciers.
Des véritables sorciers. Donc, c'est de là qu'est parti le nom Baïfoué que les Agnis donnent aux Abourés.
Alors, vraiment, c'est très, très, très passionnant ce que nous venons de découvrir grâce à vous, docteur Aïmou Ferdinand. Nous n'allons pas nous arrêter là parce que ce que vous avez dit, ce sont tous des guerriers, ceux qui sont venus, que ce soit du côté des Abourés, que ce soit du côté des Agnis. Les Agnis, on les reconnaît comme des grands guerriers. Et c'est pourquoi ils n'ont pas pu s'entendre avec les Ashanti. Ils sont partis. Pour des raisons que tout le monde connaît aujourd'hui. Ceux qui sont calmes, disons, ce sont les Aguas. Les Aguas, ils ont leur village que je connais, c'est Dibi, du côté d'Ayamé, un gros village. Les Dibi représentent quelque chose dans l'histoire des Agnis d'Abouasso, des Boisseaux. Alors, docteur, avant de terminer, je crois que nous allons peut-être faire une autre émission concernant la culture, concernant les us et coutumes des Abourés, rapidement. Mais est-ce que au niveau de l'histoire, vous pouvez peut-être conclure. Qu'est-ce que vous pouvez nous apprendre encore? Parce que les Abourés étaient un peuple guerrier, mais qui ne cherchent pas la guerre.
Effectivement, parce que c'est un peu le contraste, en fait. Les Abourés sont des peuples guerriers, mais bizarrement, ce ne sont pas des peuples à déclencher des conflits. En fait, ce peuple réagit plutôt à l'attaque. Et lorsqu'on prend un trait culturel du peuple Abouré, qui est les classes d'âge, les classes d'âge sont un héritage légué par les Éotirés. Parce que les Abourés ne connaissaient pas ce qu'était l'organisation des classes d'âge. Parce qu'ils viennent, en groupe depuis la zone sud de Koumassi. Quand ils viennent, ils avaient leur organisation typique qui était sous forme de royauté. On avait le roi avec son conseil et autres éléments. Donc on n'avait pas les classes d'âge dans le système de gestion politique des Abourés. C'est lorsqu'ils arrivent dans la zone d'Adjaké. Leur contact avec les Éotirés, ce sont les Éotirés qui vont les apprendre le système des classes d'âge. Et certaines chansons même qui sont évoquées par les classes d'âge lorsqu'ils sortent, ces chansons sont chantées en Éotiré. Et là, moi-même, j'ai été surpris parce que c'est lors de l'une de mes recherches que j'entendais ces chants. Mais moi, je n'arrivais pas à décortiquer les éléments. Et lorsque je suis allé dans la région d'Adjaké, lors des obsèques du père d'un de nos collègues, dans les chants on aperçoit les mêmes thèmes. Donc je me dis, mais ce sont les mêmes éléments des chants qu'on retrouve chez les Apolés. Donc en tant qu'historien, il fallait que je creuse. Donc c'est dans mes recherches, en posant des questions, qu'on m'a dit non, qu'effectivement ce sont les Zéotilés qui ont appris l'organisation des classes d'âge aux Aborés. Donc ce système, à la base, c'est un système de formation militaire. Donc tout individu, parce que l'Aboré estime que l'âge pour un individu, on parle à partir de 10 ans, on commence à déjà à former le garçon, à connaître les éléments de la culture. Et lorsqu'il atteint l'âge de 14, 15 ans, la puberté, déjà il doit être formé au maniement des instruments de la guerre et à l'art de la guerre. Donc il apprend tous ces éléments jusqu'à ce que sa classe d'âge sorte officiellement. Donc quand sa classe d'âge sort officiellement, c'est une organisation militaire qui est faite pour pouvoir défendre la communauté. Maintenant, avec le temps, ce système militaire va intégrer le pouvoir politique pour fonder le deuxième noyau du pouvoir politique. En fait, le noyau le plus fort, le noyau de gouvernance. Parce que le roi, lui, il règne. Il a des pouvoirs bien précis, mais il y a certains domaines auxquels il n'intervient pas. Tout ce qui est vie de la société comporte gestion courante de la société. Ce sont les générations qui s'occupent de ces éléments. Donc, on voit comment d'un élément militaire, à la base, les classes d'âge vont intégrer le pouvoir politique. Et on retrouve même les implications de l'ego des groupes éoutilés. Chez les Aborés, on retrouve encore même des familles même éoutilées au sein des Aborés. On retrouve des familles agua, c'est-à-dire eux qui n'ont pas perdu leurs racines, c'est-à-dire ils se souviennent toujours qu'ils viennent de la zone d'Aliekro. C'est la famille des Kramatu, d'origine agua. Ils ont toujours reconnu cette origine. Mais comme ils sont arrivés dans le groupement Aboré, ça fait plus de 200 ans. Donc, par fusion, ils ont adopté les coutumes Aboré. Donc, on voit que ce groupe, à la fois, est un groupe assez cosmopolite.
Docteur, c'est presque la fin de cette première partie. Je voudrais en toute sincérité vous dire merci. Les techniciens, c'est Ahmed Mori, Antoine Kouassi, ceux qui m'ont permis d'enregistrer ce qu'on a dit. Et je voudrais aussi vous remercier pour votre gentillesse. Et la Radio de la Paix vous dit infiniment merci. À très vite.
Histoire d'ici, la Côte d'Ivoire, racontée par ceux qui la vivent. Historique, contes, légendes, des origines à nos jours. Présentation, Jules Kofi Ebois. Diffusion, tous les lundis à 15h10, rediffusée les jeudis à 9h10. Histoire d'ici, voyage au cœur de la Côte d'Ivoire profonde.